Shalom, אנחנו נקרא בספר כתבי רבש, כרך בית, עמוד 1257.
Nous allons lire l'article « Qu'est-ce que la bénédiction ?» qui a fait un miracle pour moi en ce lieu, dans le travail. Vous pouvez poser vos questions à cap.tv/fre. Et les questions sélectionnées seront répondues durant le cours. Maintenant, nous lisons les articles comme préparation de Pessah, de Pâques. Et c'est en fait le début de la correction, parce que tout commence du souvenir de l'exode de l'Égypte. La réception de la Torah vient après la sortie d'Égypte. Tout cela est pour ceux qui sont sortis d'Égypte, parce que nous qui étudions la création à partir du péché de l'arbre de la connaissance et la brisure de des lames, et par après la correction de l'âme, donc nous apprenons cela d'une façon que c'est clair que d'abord nous devrions avoir la reconnaissance du mal et l'état dans lequel nous sommes après le péché de l'arbre de la connaissance, lorsque l'âme s'est divisée en de nombreuses parties et que nous devons les rassembler contre le désir de recevoir égoïste qui réside entre temps, qui contrôle les différentes parties. Fait en sorte que par cela, nous devons nous connecter à cette âme lorsqu'on la reconstruit, avec le désir de recevoir le mauvais penchant qui a été révélé dans la force qui était dans cette âme et a causé que chaque partie soit rejetée l'une de l'autre. Lorsqu'on les connecte ensemble, on travaille contre cette force de la lumière qui remplissait l'âme et maintenant est devenue du mal. Et par cela, nous apprenons les qualités du Créateur, les qualités de l'être corrigé. Mais tout commence par la reconnaissance du mal. Dans quel état nous sommes maintenant, ce qui réside entre nous maintenant, le rejet, la haine, cette incompréhension qu'on a entre nous, combien chacun est immergé à l'intérieur de lui-même et qu'il ne peut sortir de lui-même, c'est la première étape de l'étude afin d'atteindre l'étude de la divinité, de la. Par conséquent, ce que je recommande, que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on lit, et précisément, particulièrement à propos de Pâques, mais en général, tout comme on vient de l'avoir pour Pourim, il n'y a pas si longtemps, on a appris tout, on apprend qu'à partir du fait de se rapprocher et qu'on s'éloigne. Lorsqu'on s'éloigne, les forces du mal apparaissent, et ça également, c'est un ressenti de l'exil, et immédiatement, il faut retourner à la connexion, et alors, la rédemption peut commencer. Et ici, c'est la même chose, voir tout sous la lumière de la rédemption et de l'exil. Se rapprocher ou s'éloigner, être corrompu ou corrigé. Allez-y. Article, qu'est-ce que la bénédiction qui a fait un miracle pour moi en ce lieu, dans le travail? Le sage ont dit, une personne a eu un miracle et a été sauvée d'un lion. Rava lui a dit, quand tu viendras là-bas, bénis-le. Béni soit celui qui a fait un miracle pour moi en ce lieu. Nous devrions comprendre que ce que cela nous permet d'apprendre dans le travail. On sait que le but de la création a découlé de son désir de faire du bien à ses créations. C'est dans ce but qu'il a créé chez les créatures un désir et une aspiration à recevoir délices et plaisirs. Sans cela, si elle n'a pas de désir pour le plaisir, une personne ne peut pas en jouir, comme on le voit dans la nature. Si elle n'a pas de désir pour quelque chose, elle ne peut en jouir. Par exemple, Si une personne n'a pas faim, elle ne peut aimer manger, etc. Par conséquent, nous voyons et disons que le Créateur a créé dans notre nature un désir de recevoir délices et plaisirs. Pourquoi le Créateur a-t-il créé une telle nature? Puisque nos sages ont dit, si quelqu'un demande au sujet de cela avant que le monde ne soit créé, l'Écriture nous dit, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, cela signifie que nous ne pouvons pas nous demander pourquoi, lorsqu'il a créé le monde, il l'a créé spécifiquement avec cette nature particulière. Après tout, il aurait bien pu créer différemment. Nous ne pouvons pas poser de questions à ce sujet, mais nous apprenons tout par le biais de « par tes actions, nous te connaissons ». Autrement dit, nous commençons à tirer des leçons des actions que nous observons et pas avant. Également, nous voyons une autre nature qui veut que la branche désire ressembler à sa racine. C'est-à-dire, comme la qualité de la racine des créatures qui est le Créateur est de donner et non de recevoir. De cette manière, quand l'homme doit manger le pain de la honte, il a honte. Selon les mots du Zohar, c'est ce qu'on appelle le pain de la honte. Selon cette nature, il s'ensuit que lorsqu'une personne reçoit du Créateur dans ses récipients de réception, ce qui contredit la qualité du Créateur qui est le donneur, elle ressent un malaise. À cause de cela, il y a eu une correction appelée le Tzimtzum et la dissimulation. Ou, tant que la partie inférieure n'a pas l'équivalence de forme appelée le désir de donner, une personne est placée sous la dissimulation et la dissimulation de la Kdusha. Nous ne devrions pas non plus poser de questions à ce sujet. Pourquoi le Créateur a-t-il créé une nature de honte? Et pourquoi la branche a-t-elle voulu ressembler à sa racine? C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas poser de questions préalables à la création. Le cli des êtres créés est le désir de recevoir du plaisir. Avant que le désir de recevoir n'ait été créé, nous ne pouvons pas en parler. Nous attribuons ce cli au Créateur, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de travailler avec ce cli. Mais toute personne qui a été créée, si elle n'a pas corrompu le cli est parfait. C'est-à-dire que chaque fois que le désir de recevoir se rend compte qu'il y a un lieu d'où l'on peut tirer du plaisir, il y court immédiatement. Une question. Combien de raisons avons-nous de faire cette restriction, d'arrêter de recevoir, quand on l'est? Allez, allez-y. Qu'est-ce qui fait que tu crées cette restriction? Tout ce que je vois, c'est vraiment tu veux être comme quelqu'un d'autre et que tu es le posé, tu ne veux pas y arriver, mais c'est ça que tu as. Ici, il écrit à propos du sentiment de la honte lorsqu'une personne veut vraiment ressembler au Créateur et qu'il se retrouve à l'opposé. Le Rav. Est-ce que la honte est une raison égoïste ou pas? Est-ce que la honte est une raison égoïste ou pas? Je vois ça à propos de moi-même. Dans une certaine mesure, je suis honteux. Disons, on m'a donné quelque chose, je dis non, non, c'est de la honte, mais en fait c'est de l'ego, non? Non? Quel est que veut dire cette honte? Lorsqu'on dit à quelqu'un « tu devrais avoir honte », qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas suffisamment d'égo? Allez, allez-y, là, les gars, allez-y. Allez, oh, réveillez-vous. Oui, ça c'est égoïste. Ça dépend comment vous voyez ça. Sentir la honte à partir de du fait que moi je ne suis pas, je ne peux pas faire ça rapidement.
Okay.
Il écrit deux raisons qui qu'on peut avoir ensemble. D'un côté, on ne peut pas avoir de plaisir, qui est la nature de l'être créé. Et une autre, c'est que la branche veut ressembler à sa racine. Et pour développer cette matière de la honte, même si c'est égoïste, il la développe. Donc, pour que ce soit une nouvelle attitude, la nouvelle attitude est tout ce qui apporte. Où est la honte? Si on la regarde de nos yeux, c'est égoïste. Mais le rabbash veut dire que la honte est une création d'elle-même. Donc, il apparaît que la honte te fait passer de la vraie restriction du monde de Oudon, même si au début c'est égoïste. Une honte égoïste? Bah, c'est possible. C'est la réponse du cli pour le fait de recevoir quelque chose qui n'était pas prêt à recevoir. Et qui lui a été envoyé. La honte, c'est une sorte de réponse à une action. La question est d'où vient cette honte? Si vraiment je veux être, je ne sais pas, dans ton état et que je ne suis pas là, peut-être c'est en fait une action de don. Que par cela, une personne peut ressembler au Créateur dans une certaine mesure qui lui fait ressentir la honte. Parce qu'il ne peut pas ressembler au Créateur. Il est incapable de ça. Peut-être il ressent la honte de son état. Qui est égoïste? C'est un défaut par rapport à soi-même. Ça dépend comment tu vois ça. Ça peut être égoïste ou pas égoïste. La honte, c'était le seul cli que la créature peut se permettre pour ne pas rester dans l'état précédent, le Rav. Quelle est la différence entre Tzimtzoum le Massach et l'or rosaire, la restriction, et la lumière réfléchie? Quelle est la différence entre ces trois actions? La restriction, l'écran et la lumière réfléchie. De quelle façon suis-je connecté à l'hôte? Vous pouvez vérifier selon cela. Qu'est-ce qui se passe à la restriction, dans l'écran et dans la lumière réfléchie? Quelle forme de communication y a-t-il là entre moi et l'hôte, le propriétaire? Dans la restriction, c'est une forme complètement opposée. Massach, c'est un certain début qui, au moins, il n'y a pas d'opposition. Et la lumière réfléchie, c'est déjà une équivalence. Peut-être, dans d'autres termes, la restriction est lorsqu'on ne veut pas recevoir directement comme on le fait d'habitude. L'écran, c'est lorsqu'on a une certaine sorte de capacité à retourner ou penser à retourner ça à l'autre. Et la lumière réfléchie, c'est la capacité pratique à donner.
La
restriction est d'abord sur le penchant naturel au cli à recevoir pour soi-même. Le massard, l'écran et la capacité à surmonter cette direction pour soi-même. Et la lumière réfléchie est lorsqu'il y a déjà la force d'être comme le Créateur en action. Je dirais la même chose en d'autres termes. La restriction peut être la même action au nom du désir lui-même pour recevoir. C'est une action qui provient de soi-même. L'écran vient de l'intention à donner du plaisir à l'invité. Et la lumière réfléchie, la capacité de la créature à donner du plaisir. Kenadalet se réfère à la lumière comme trois phases avant. La relation à l'autre, en relation à l'autre, comme l'a dit l'ami, la restriction c'est quand on ne veut pas recevoir. L'écran c'est le calcul de qu'on fait de ce que je peux recevoir pour lui donner du plaisir. La lumière réfléchie c'est le cli, le récipient, qui finalement apparaît lorsqu'on reçoit un fait de lui donner du plaisir. La restriction est l'annulation de toutes sortes de relations envers le Créateur. Massar, c'est sans lui disons dans la dizaine, et la lumière réfléchit, c'est déjà quand on voit ça par rapport à la lumière. Ce n'est pas le cas du cli appelé le désir de donner, car une personne recherche l'équivalence de forme, puisque nous attribuons ce cli à l'être créé, c'est-à-dire qu'une personne doit fabriquer ce cli, puisque la créature veut l'équivalence de forme, pour cette raison, c'est à la personne de le réaliser. C'est ce que le Balasulam a dit à propos du verset « Ce que Dieu a créé pour le faire ». « A créé » se réfère au cli appelé « désir de recevoir » et « faire » se réfère aux créatures qui doivent réaliser le cli appelé « le désir de donner ». Cela ne vient pas de la nature que le Créateur a créée. Au contraire, il a commencé la création à partir du désir de recevoir. Et vous, les êtres créés, devez avoir le désir de donner. Par conséquent, lorsqu'une personne commence à travailler afin de donner, cela est une nature différente de celle avec laquelle l'homme a été créé. Pour cette raison, tout ce que l'homme doit faire dans le travail du Créateur, c'est de fabriquer le cli, ce qui est l'action opposée au cli avec lequel l'homme a été créé. Lorsqu'il entre dans le travail du don, il ne sent pas encore combien son désir de recevoir entrave son travail de don. Il s'agit d'une correction afin que l'homme ne puisse pas voir la vérité au sujet de la dimension du mal en lui, puisque quand il verra le mal en lui, il se détournera certainement de ce travail et ne voudra même pas le commencer. C'est pourquoi Maïmonide dit que nous devons d'abord accoutumer une personne dans l'olishma jusqu'à ce qu'elle acquière la connaissance et beaucoup de sagesse, et ensuite on lui montre la question de l'ishma appelé afin de donner. Nous devons savoir qu'une personne soumise au désir de recevoir pour soi-même est appelée l'exil en Égypte. Puisque lorsque nous commençons ce travail, nous sommes progressivement montrés d'en haut, on nous montre progressivement d'en haut la mesure de la gouvernance du mal sur nous, comme il est écrit, et les enfants d'Israël soupiraient de ce travail. C'est-à-dire, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire le travail de don qu'ils avaient commencé, puisque les Égyptiens les contrôlaient. À ce moment-là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas sortir de l'exil en Égypte. Même que comment est-ce qu'ils ont découvert cela? Que les Égyptiens les contrôlaient. S'il vous plaît, comment est-ce que les enfants d'Israël, de façon pratique, ont découvert que les Égyptiens les contrôlaient? Comment est-ce qu'ils ont découvert ça? Je ne sais pas. Je suis perturbé avec toute cette Égypte. Ils arrivent à la reconnaissance du mal. Tout est reconnaissance du mal. Ils ont découvert ça dans la mesure où ils l'ont voulu, ou développé un désir pour sortir. Dans la mesure où réellement ils voulaient vraiment donner. Si tu n'es pas connecté, tu n'es pas sous le contrôle du désir de recevoir, alors tu découvres l'exil, découvrir la lumière qui corrige par la correction, l'intention, et alors cela nous montre le bon état. Cette action ces actions de connexion, déconnexion, c'est très simple, il faut apprendre et découvrir comment se connecter, et tu te connectes. Mais pas seulement qu'on découvre que c'est impossible, mais également qu'il n'y a pas de connexion qui demande le Créateur. Et alors, il n'y a aucun besoin pour lui, ça veut dire que les Égyptiens gouvernent. D'abord, dans les 7 années de satiété et ensuite de faim, de famine, et la transition nous permet de faire un discernement. Mais il n'y a aucune chance de se connecter, il ne peut même pas faire un pas envers cette direction. Et s'ils ne sont pas ensemble, ils ne peuvent pas.
לפי הכרת הרע שהם
selon la reconnaissance du mal qui veulent une chose qui est de ressembler au Créateur. D'un autre côté, ils voient qu'ils sont immergés dans leur désir de désir de recevoir. Ils découvrent que les Égyptiens gouvernent. Rav, c'est-à-dire que tout cela va vers la même direction que les enfants de Jacob, ils ne voulaient pas se connecter. Et maintenant, parce qu'ils veulent se connecter, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas. Quelle est la différence entre vouloir et être capable? Allez, atelier, question d'atelier, allez les gars. Quelle est la différence entre découvrir qu'on ne veut pas ou découvrir qu'on ne peut pas se connecter? Si c'est dans le désir, alors c'est en fait un désir égoïste dans les mains de l'homme, alors c'est égoïste. Et si il va découvrir qu'il ne peut pas, alors par cela il peut en fait développer un désir pour le don. La différence, c'est la force de l'environnement. À partir du moment où ils peuvent s'abaisser et découvrir la grandeur des autres. Oui, dans les termes les plus simples, la différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir, et qu'ils essaient. Rav, dans la question, dans les sous-titres, il faut ajouter que c'est par rapport à la connexion. Pas ne pas vouloir, ne pas pouvoir se connecter. Ils n'ont pas écrit correctement dans les sous-titres. On continue. Mais que les Égyptiens les contrôlaient. À ce moment-là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient sortir de l'exil en Égypte, mais que le Créateur pouvait les délivrer. C'est ce qu'on appelle un miracle, car tout ce que l'homme ne peut faire par lui-même, mais peut le réaliser grâce à l'aide d'en haut, est appelé un miracle. C'est le miracle de l'exode d'Égypte. Quel état dois-je atteindre pour que ce soit clair pour moi que uniquement la force supérieure, le Créateur, peut me faire sortir de l'exil et me donner... Qu'est-ce qu'il devrait me faire pour que je ressente que je sors de l'exil, s'il vous plaît? Quel état est-ce que je dois atteindre afin de recevoir de l'aide, et qu'est-ce que cette aide va me faire? Nous devons atteindre un état où on travaille maximum en connexion, et alors on voit qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des coûts qui grandissent, et d'un autre côté, on augmente la connexion entre nous, et alors on doit avoir cette aide. Une personne d'en bas, la dizaine, fait un effort à se connecter. Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Avec la dizaine, c'est la même chose. Ils font ce qu'ils peuvent. Lorsqu'on est dans les efforts maximum et qu'on ressent qu'on ne peut pas, alors vient l'aide d'en haut. Et c'est la seule façon. C'est comme ça que ça va. Il y a quelques discernements auxquels on arrive ensemble lorsqu'on veut reconnaître, et alors ça, ça nous amène à reconnaître qu'on ne peut pas, pour comprendre qu'on est totalement dépendant du Créateur qui fait les changements, et pour atteindre le cri pour lequel il fera les changements. Oui, tout cela est appelé le plein manque de la dizaine des dix séphirotes. Lorsqu'ils examinent, qu'ils discernent les manques. Vraiment une très haute importance dans le groupe pour sortir de l'ego, et l'ego souffre de toutes ces dix plaies. Nous devons savoir que lorsqu'une personne veut parvenir à la dvekut, la liaison avec le Créateur, elle a des ascensions et des descentes. Dans l'ordre, pendant la descente, quand une personne entre en état de désespoir, elle arrive parfois à s'interroger sur tout le travail qu'elle a fait en vain. C'est ce qu'on appelle la réflexion du commencement, quand il veut fuir totalement le travail du Créateur. Mais soudainement, il reçoit un éveil d'en haut et se sent plein de vitalité et de passion pour le travail. Et oublie complètement qu'il n'ait jamais eu une descente. Il se contente plutôt de l'ascension. À ce moment-là, une personne ne peut profiter de l'ascension plus que quand il était placé sous la gouvernance du mal pendant la descente. Nous devrions savoir que l'exil qu'il ressent, qu'il est en exil, est mesuré non par l'exil, mais par la sensation du mal et de la souffrance qu'il éprouve parce qu'il est en exil. Alors, quand il est tourmenté parce qu'il est sous la domination des oppresseurs et qu'il doit faire tout ce qu'ils lui demandent et qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais il doit servir et accomplir tout ce que les nations du monde dans son corps exigent, et il est impuissant à les trahir à la mesure de la douleur qu'il ressent et son désir de les fuir, dans cette mesure, il peut profiter de la rédemption. Cela signifie que tous les désirs en lui, les qualités en lui, sont toutes contre la connexion. Et alors, il ressent qu'il est vraiment sous le contrôle de son ego, le contrôle de son pharaon, et qu'il est incapable de surmonter tout cela. Comme nous le voyons, il était... il répète. Il est impuissant à les trahir à la mesure de la douleur qu'il ressent et de son désir de leur échapper. Dans cette mesure, il peut profiter de la rédemption. Comme nous le voyons, il est écrit à propos d'un esclave hébreu. Si vous achetez un esclave hébreu, il servira pendant 6 ans. Et le 7e, il sera libéré gratuitement. Certes, l'esclave devrait être heureux qu'il ait été libéré et qu'il soit en son propre droit et qu'il n'ait pas de maître sur lui. Et pourtant, nous voyons ce que dit la Torah. Et si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre », nous voyons qu'il est possible qu'une personne veuille rester esclave. Et pourtant, il est écrit dans le Deutéronome « Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte ». Cela signifie qu'être esclave est une mauvaise chose, mais que parfois une personne veut rester un esclave. Que signifie donc qu'il est écrit « Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte ». Et qui dit qu'être esclave est si mauvais, après tout? Il y a des gens qui veulent être esclaves, comme on l'a dit, que l'esclave a dit « J'aime mon maître ». Le fait est que l'exil est en fonction du niveau de souffrance et de douleur que l'homme ressent dans l'exil. Dans cette mesure, il sera possible d'être heureux de sa rédemption. C'est comme la lumière et le kli, ce qui signifie que la souffrance que nous éprouvons est le kli qui peut recevoir la lumière s'il se libère de la souffrance. Là-bas, en Égypte, les écrits disent « J'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël parce que les Égyptiens les asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. » Il a relu le passage qu'on vient de... Là-bas en Égypte, les écrits disent « J'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël parce que les Égyptiens les asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. » Il s'avère donc qu'en Égypte, lorsqu'ils étaient esclaves, il est écrit « Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte parce qu'ils ont souffert. » Il a aussi dit « Et les enfants d'Israël souffraient à cause du travail. » C'est pourquoi nous avons reçu le commandement de nous souvenir de l'Égypte, comme il est écrit, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie, du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Il s'ensuit que, selon la règle, qu'il n'y ait pas de lumière sans cli, pas de remplissage sans manque, bien que nous soyons déjà sortis d'Égypte, nous devrions nous réjouir de la rédemption d'Égypte. Pour cette raison, nous devons nous souvenir de l'exil en Égypte. Ce qui signifie se souvenir, imaginer comment le peuple d'Israël a souffert pendant l'exil en Égypte. Alors nous pouvons profiter de la rédemption d'Égypte même aujourd'hui. Dans le cas contraire, nous ne pouvons nous réjouir de la rédemption de l'Égypte parce que les souffrances sont appelées les kélim pour recevoir la joie. C'est-à-dire, lorsque la vie ou l'épaisseur devient la pureté, aussi mauvais que cela, c'est pourquoi nous constatons que l'esclave hébreu ne voulait pas être libéré. On pourrait se demander comment quelqu'un peut-il ne pas vouloir être libre. La réponse est que parce qu'il n'a pas souffert en étant esclave, il ne veut pas être affranchi, comme on l'explique quand il dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi ». Mais au sujet de l'exil en Égypte, il est écrit « Afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte ». Car là, ils souffraient, comme il est écrit, et les enfants d'Israël souffraient à cause du travail. Par conséquent, nous pouvons comprendre ce que nous avons demandé. Qu'est-ce que cela signifie dans le travail quand une personne devrait bénir l'endroit où un miracle a été accompli pour lui? En fait, quand une personne commence le travail du don, elle en arrive à des états d'ascension et de descente. Une ascension signifie qu'après qu'une personne ait été soumise à la gouvernance du désir de recevoir, a servi à remplir tous ses désirs et qu'elle ait voulu le surmonter et ne pas y obéir, mais que le désir de recevoir était plus fort qu'elle, cette personne a souffert d'être éloignée du Créateur. Par la suite, il a reçu un éveil d'en haut et a recommencé à ressentir une certaine allégresse pour Kdusha. À ce moment-là, la personne veut s'annuler devant lui comme une bougie devant un flambeau. Et alors une personne bénéficie de l'état d'ascension. Cependant, l'homme ne peut rien tirer de l'ascension, progresser dans le travail parce qu'il n'apprécie pas que le travail l'ait rapproché, parce qu'il n'a pas les kélim, les récipients. En d'autres termes, durant la période de l'ascension, il n'est pas en mesure de réaliser des progrès. En d'autres termes, pendant l'ascension, il oublie qu'il a déjà eu une descente. Ainsi, bien qu'il se sente maintenant proche du Créateur et qu'il l'apprécie, il oublie vite. Naturellement, il n'a pas de cli, c'est-à-dire de manque, pour pouvoir apprécier, comme il est écrit, comme l'avantage de la lumière provenant des ténèbres. C'est pour cette raison qu'il ne progresse pas comme il le devrait durant l'ascension. C'est pourquoi, au cours d'une ascension, il doit se remémorer et dire « Dans ce lieu où j'ai maintenant une ascension, j'ai eu une descente, et le Créateur m'a secouru, m'a fait sortir du monde des enfers, et j'ai émergé de la mort, appelé l'éloignement du Créateur. Et j'ai été récompensé d'une certaine mesure en me rapprochant du Créateur, ce qui est appelé une certaine mesure de dvekut avec la vie des vies. Pour cela, une personne devrait être reconnaissante, car par cela, elle est maintenant dans un état où où il a souffert. Et maintenant, il est dans une atmosphère de joie et de plaisir parce que le Créateur, en leur branchant de lui, lui a donné de nouveaux kélim d'un manque qu'il peut remplir par l'état d'ascension dans lequel il est maintenant. Il s'ensuit qu'il étend une lumière de joie dans les nouveaux kélim qu'il a maintenant obtenus en regardant le miracle qu'il a eu où le Créateur l'a sauvé. C'est pourquoi, lorsqu'il considère la souffrance, c'est comme s'il était maintenant le receveur de la souffrance et qu'il la comble avec le plaisir. Il s'ensuit que le fait de se dépeindre l'état de descente fait en sorte que l'ascension qu'il a maintenant reçue se propage dans les nouveaux kélim selon la règle. Il n'y a pas de lumière sans qui. Donc, pendant l'ascension, lorsqu'il commence à contempler l'état de descente dans lequel il se trouvait, la souffrance de la descente est considérée comme des kélim dans laquelle la lumière de l'ascension peut se répandre. Ceci est semblable à ce qui était dit plus haut au sujet de l'exil et de la rédemption, que selon la souffrance qu'il ressent pendant l'exil, afin qu'il puisse apprécier la rédemption. C'est-à-dire que l'exil est l'équilibre de la rédemption. Cela signifie que la rédemption ne peut remplir plus que l'équilibre dont elle dispose de l'exil. C'est pourquoi dans le travail, lorsqu'une personne se décrit elle-même l'état de descente, cela est considéré ce que nos sages ont dit, qu'elle devrait rendre une bénédiction. Béni soit celui qui a fait un miracle pour moi en ce lieu. Des questions ?
Merci.
Il est écrit que, par conséquent, durant la descente, il devrait penser à l'ascension, et la souffrance de la descente est considérée les kélim pour lesquels la lumière de l'ascension peut venir. Est-ce que c'est pas un peu comme l'alliance du sel pour comprendre le présent et le futur à partir de là? Quelqu'un d'autre là au fond? Nous savons qu'on était esclaves en Égypte, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on a fait. Non de la volonté. Qu'est-ce que tu veux dire pas par la volonté? Ce que tu demandes, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être en exil? Lorsqu'on est en exil, que je dois faire des choses que je ne veux pas faire? C'est comme cela que je me ressens, comme s'il y avait une force étrangère qui me contrôle et que je vis, que je fais des choses parce que cela me force à les faire. Et dans la mesure où je ressens les résistances intérieures de l'endroit dans lequel je me trouve. D'accord, mais maintenant on a deux discernements. D'un côté, nous sommes des serviteurs du Créateur, et de l'autre côté, on est les ouvriers du Créateur. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre ces deux termes? Comment être serviteur du Créateur? Serviteur ou esclave? Et d'un autre côté? Pas esclave, mais travailler pour. Ah, ok. Alors, quelle est ta question? Je demande à propos de la différence entre les termes. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu travailles parce que tu le veux bien. Et lorsque tu sers quelqu'un, tu le fais contre ta volonté. Non, je ne dirais pas ça. Cela dépend de est-ce que tu veux passer par là ou... disons que je veux être esclave. Et alors, je vais dans cet état. Et j'adhère, je suis attaché à chaque moment. C'est comme si j'avais signé pour cela. À chaque moment, je veux le faire, à chaque moment. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Et ce degré d'être esclave, est-ce que ça dépend de du créateur, du propriétaire, cela peut être un degré très élevé. Tout le temps, je suis d'accord que cela dépend de moi, j'ai le libre choix. Et cela dépend de moi de quelle façon je vois mon travail, de donner contentement aux autres créateurs. Et alors, je veux être dévoué à lui d'une telle façon où à chaque moment, je choisis cela. D'accord, mais le concept dans lequel je suis, c'est que je suis le serviteur du créateur, ou est-ce que je travaille pour le créateur, comme de la coopération. Lorsque tu as signé pour cela, tu es appelé, c'est comme si tu travaillais pour lui. Lorsque tu signes pour ce qui va être, alors là tu es appelé un serviteur. On parlera de cela dans le futur. Oui. Gilad, pourquoi lorsqu'une personne est en ascension et qu'elle prend les récipients précédents de la souffrance, cela est appelé des nouveaux récipients? Quels sont les nouveaux récipients ici? En fait, il n'y a pas de nouveaux récipients. Ça, c'est clair pour nous, le désir de recevoir qu'a créé le Créateur, ça dépend de la personne, de la conscience de la personne, combien la personne est consciente de cela, et reconnaît ses récipients, et les connecte. Dans la descente, il atteint, dans une certaine mesure, qu'il est en exil, mais selon cela, il peut utiliser la profondeur de ses récipients pour être en rédemption, en ascension. Tout dépend de la conscience. C'est comme un bébé dans ce monde. Qu'est-ce qu'il sait à propos de ce monde par rapport à un adulte? C'est tout. C'est pourquoi, c'est tout. Tout dépend de la révélation, de la conscience, de la reconnaissance. Par conséquent, la conscience qu'on a lorsqu'on est en exil nous aide à atteindre la rédemption. C'est les mêmes récipients, seulement c'est à l'opposé. C'est pas uniquement à l'opposé, c'est-à-dire qu'on les ouvre, ils sont ouverts par nos efforts 620 fois plus. On va en parler. Si je pouvais ressentir l'exil, tout comme je ressens la rédemption, alors je ne serais jamais capable d'en sortir. Mais plutôt, précisément, en faisant des efforts dans la société, en essayant d'attirer la lumière qui corrige, en résultat, j'ai 620 fois plus dans l'ascension par rapport à la descente. C'est pourquoi on ne ressent pas les descentes dans une telle mesure, moins l'infini, sauf de comment on le fait avec le plus l'infini. Non, ici, il y a la question du Créateur qui fait cela d'une façon où on ressent l'ascension 620 fois plus qu'on ressent la descente. C'est la signification de la brisure. C'est une signification, on ne peut pas s'y connecter, mais lorsqu'on découvre l'ascension ou la descente, on découvre qu'on ne peut pas se connecter. Chacun ressent cet état dans son ego personnel. Par conséquent, dans l'ascension, lorsqu'on se connecte, nous découvrons dans notre désir de recevoir commun où tous les efforts se connectent et tous les désirs se connectent, et les prières, et alors l'intensité 620 fois plus grande. C'est-à-dire que tu ne peux pas comparer la descente avec l'ascension, même si les descentes sont si inconfortables, déplaisantes. En fait, tu ne peux pas comparer l'ascension, parce que l'ascension est 620 fois plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire de prendre des récipients de la descente et les remplir avec l'ascension maintenant? C'est augmenter l'aspiration ou quoi? Tu n'as pas d'autres récipients, mais sur eux, comme il est dit, tu fais des efforts et tu pries et tu te connectes toutes les calélutes, l'intégration de chacun avec les autres neuf amis, et alors tu as une intensité d'une ascension. Et qu'est-ce qui n'est pas clair ici? Donc on peut dire que la personne reçoit l'opportunité de profiter de l'ascension et elle dit non, je veux créer plus d'aspiration pour la connexion, et pareil à d'autres? Non. quel est le calcul dans l'ascension? Le calcul dans l'ascension est que je veux être un serviteur loyal. Ça veut dire que je joins la Malruta Bina, et par cela, c'est pourquoi je demande quelle est la différence entre la restriction, l'écran et la lumière réfléchie. Simsum Masar et Or Roser. La restriction est uniquement faite dans Malruta. Et tu peux dire que c'est égoïste, parce que c'est à cause de la honte d'éviter le sentiment de séparation, de division. C'est un sentiment terrible, mais quand même, pour éviter un mauvais ressenti. Si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses ici, mais en fait, à propos du massard, l'écran, c'est lorsque déjà je veux travailler au-dessus de mon désir de recevoir. Je suis détaché de lui. Je l'évite et je m'élève au-dessus. Et la lumière réfléchie, c'est lorsque je prends le désir de quelqu'un d'autre, du propriétaire, et je travaille avec. C'est-à-dire que ces actions sont à chaque fois dans un niveau différent de désir de recevoir.
Oui.
Donc, comment se fait-il que ça a à voir avec les nouveaux récipients? Les nouveaux récipients, c'est un récipient que je reçois du Créateur, à partir du moment où il apprécie me donner, vraiment je découvre en lui, à l'intérieur de lui, ce récipient, et je le laisse me donner. Je continue à recevoir de lui uniquement avec la conscience que je le fais afin de lui donner du plaisir. Comme un bébé, il savait ce qu'il fait à sa mère, il ouvre la bouche avec dévotion.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui est considéré comme souffrance du nouveau point de vue? Il n'y a plus de souffrance. Mais précédemment, lorsqu'il a tout reçu du Créateur, la souffrance signifie qu'il voulait atteindre le don, mais il ne peut pas. C'est pas sur le compte du Créateur, c'est toujours sur le compte de la créature. Le Créateur est toujours pur. Ou il est pur du point de vue de la créature. Et l'ascension, ça veut dire prendre le premier état de souffrance, et c'est ce qu'on appelle, et alors il doit prendre ce premier qui. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on ne sait pas comment travailler avec les descentes précédentes. Tout ce qu'on doit faire, c'est penser à la connexion qu'on ne peut pas atteindre maintenant, sans Tserishimo et tout ce qui se passe. La connexion, autant qu'on le peut, entre nous. C'est ça qu'on devrait faire maintenant. Plus tard, on peut parler d'action plus intérieure. D'accord?
דניס סנדלר ממוסקבה שואל איך נוכל ליישם את המלצת הרמב״ם להרגיל את עצמנו.
דניס דה מוסקו qui demande comment pouvons-nous mettre en œuvre les conseils du Rambam de travailler d'abord en l'olishma et ensuite en l'ishma. C'est comme ça qu'on avance, on n'a pas le choix. On fait des actions autant qu'on le peut dans l'état dans lequel on est. Et il n'y a rien d'autre. Maïmonide ne recommande pas. Les kabbalistes n'inventent rien. Ils disent les choses selon les lois de la nature, et c'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Est-ce qu'on peut réaliser des actions afin de donner? Non. Est-ce qu'on peut réaliser des actions afin de recevoir? Oui. Mais est-ce qu'on le veut réaliser des actions afin de donner? Oui. Donc, où que tu sois dans l'endroit où tu es, fais des actions comme si tu étais afin de donner. De l'olishma, t'arrives à l'ishma. Itaï de Roumanie qui demande comment est-ce que le désir de recevoir nous permet d'arriver à l'exemple de l'esclave hébreu. C'est comme ça. Lorsqu'on est dévoué au Créateur et qu'on travaille pleinement, aveuglément, la question, est-ce que tu critiques cela, est-ce que tu as vérifié cela, avant que tu vérifies cela, tu es encore un esclave, mais c'est après que tu l'aies discerné, tu es esclave, mais tu travailles. Yagana demande, si cette descente sont des composants nécessaires dans le récipient, comment l'utiliser de façon effective et comment est la transition vers le travail afin de donner. Uniquement par la route, durant la vraie descente, la personne est incapable de faire quoi que ce soit. Uniquement par la route. Il faut comprendre que si quelqu'un chute, c'est juste une opportunité pour les autres d'acquérir plus de récipients et pas pour tomber. Et si on pouvait faire cela, alors nous serions toujours en ascension. En général, le groupe lui-même serait toujours en ascension. Si on peut utiliser les descentes de chacun afin d'acquérir le rissaron, le manque, acquérir l'aspiration de cela. Dans Sergei de Nieper qui demande, on découvre une honte commune ou alors chacun découvre sa propre honte. Plus tard, cela devient une chose commune. La honte et le récipient. D'accord.
Amnon.
Amnon.
לא תמיד העבדות היא סבל כמו שאנחנו קובעים אהבתי את אדוני
La servitude n'est pas toujours la souffrance oui, comme il est dit j'aime mon maître oui, alors comment est-ce qu'on distingue entre vouloir être un serviteur et être forcé à être un serviteur en fait je vais vous dire uniquement une seule chose tout ce qui est dit dans la Torah est par rapport à la correction de Adam Harishon. Le corriger, c'est uniquement par la connexion de toutes les parties. C'est pourquoi la première chose que la personne doit faire, c'est établir la bonne manière de travailler, la forme du travail, pour connecter toutes les âmes en une seule âme, ou toutes les 10, c'est ce que je dois faire. Par conséquent, uniquement par rapport à ce discernement, la connexion et déconnexion, on peut en parler d'exil et de redemption. La correction finale, c'est quand tu les connectes tous ensemble. La servitude ici, qu'est-ce que c'est? La servitude, c'est quand tu es dans ton propre désir de recevoir, égoïste, et que tu réalises une action de connexion. Mais uniquement par la dizaine, sera possible, mais uniquement, tu ne trouveras pas un seul mot de la Torah qui n'appartient pas à la dizaine. Mais la même question, alors, qu'est-ce que c'est d'être un serviteur volontairement? Ou est-ce qu'il est dit que j'aime mon maître, mes enfants et ma femme? Si c'est uniquement dans la dizaine, d'où est-ce que ça vient que je puisse dire cette chose? C'est la signification d'un serviteur du Seigneur. Je veux faire ce travail sans aucun choix, d'abord de force, coercivement, et ensuite par mon propre désir. C'est comme ça. Queens. Queens.
Allô.
Почему у нас не...
Allô.
Lo-shomim?
Ah, on ne peut pas entendre. Ah, c'est bloqué.
Queens, Brooklyn.
Ah, il est bloqué. Queens, Brooklyn.
Oh, je vais trier la zone.
Ok, maintenant on voit. Oui, on vous entend. On vous entend pas.
Ah,
да.
Слышно меня?
Слышно, слышно.
Oui.
Ok, on a ce вопрос.
Громче.
Question.
Сейчас. Почему у нас не получается по-настоящему вскричать к Творцу? Мы постоянно добавляем в работе и не можем прийти к настоящему отчаянию.
Pourquoi ne pouvons-nous réellement crier au Créateur et sortir du désespoir du travail? Le but n'est pas d'atteindre le désespoir, mais d'atteindre la connexion, tout le temps, uniquement la connexion, et ça, c'est sur le chemin. Lorsque tu butes sur le désespoir, le Créateur te l'a fait exprès pour qu'on veuille avoir son aide. Et alors, nous sommes désespérés de notre travail après tous nos efforts. Lorsqu'on est désespéré de cette façon, on crie vers lui et c'est comme ça qu'il nous récompense et il nous fait sortir. Mais entre-temps, nous sommes constamment avec lui, on lui demande constamment de l'aide, constamment on est attiré par la connexion, à la connexion. Et finalement, on découvre qu'on est incapable. Même si chaque pas sur le chemin, nous avons besoin de l'aide du Créateur, mais il y a un état spécial qui vient, qu'on atteint un état spécial où l'aide ne doit pas être en se connectant plus ou comme ci, comme ça, mais plutôt son aide. On atteint un état où son aide, c'est lorsqu'on découvre l'obscurité. Lorsqu'il doit inverser nos récipients pour recevoir l'écran, la première réception de l'écran, transformer le récipient de récipient en récipient de don. Et alors, on a cette inversion. Mais entre-temps, on est toujours attiré. Dieu nous en préserve, pas par la déconnexion. On doit toujours vouloir sortir d'Égypte. On veut sortir de cette force de la division. Et certainement, avec l'aide du Créateur. Toujours prier, demander de soutien. Et alors, uniquement après cet état correct, on doit passer au-dessus de la séparation pour atteindre la connexion, alors nous découvrons sur ce chemin tout le processus de l'Égypte et commençons à découvrir de quelle façon et avançons. Cela inclut en soi beaucoup d'actions, comment dire ça, des actions surprises, des actions surprenantes. Surprenantes.
ככל שמגלים שנשלטים על ידי המצרים,
plus nous découvrons qu'on est gouverné par les Égyptiens, la haine au Créateur augmente. Comment est-ce qu'on découvre l'endroit pour recrier vers lui? Uniquement par les efforts corrects pour localiser encore et encore ce qu'on doit faire dans le groupe de reconnexion. Parfois, la haine apparaît, pas uniquement la haine, mais plutôt l'incompréhension, l'énervement qu'on peut avoir contre les autres. L'ego, c'est à l'opposé. C'est exprès, il faut découvrir tout cela. Oui. Tu as mentionné que les actions que nous faisons, c'est d'abord de force et ensuite par volonté. La question est, qu'est-ce qui fait cette transition de force à volontairement? La lumière qui corrige. Lorsque je commence à avoir cette reconnaissance que cela est le chemin, que c'est ce que je dois faire, et que c'est dans la base de la création, et alors commence à être des partenaires. C'est comme ça, uniquement par le travail. Je répète, toutes ces choses prennent leur place petit à petit. Ça prend du temps, des mois et même des années jusqu'à ce que tout prenne sa place à l'intérieur de la personne. Mais si vous avez commencé, vous pouvez vous assurer que dans votre vie, vous atteindrez...